Je le disais avant de se quitter pour la pause, le chemin pour se rendre dans la Ligue nationale de hockey est ardu et difficile, mais plutôt simple à comprendre. Tu joues dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, on va dire à 17 ans, tu es repêché. À 20 ans, tu fais le saut dans la Ligue américaine. Tu as une courte fenêtre de peut-être 2-3 ans avant de trouver ta niche, ta place dans la Ligue nationale de hockey. Et après ça, ben, t'es parti pour la gloire. Au baseball, c'est un peu plus compliqué. Il y a un peu plus de ramifications. Et pour bien comprendre ces ramifications, je me suis tourné vers mon ami Mark Griffin, qui non seulement est passé par là, mais les fils, dont ses fils évoluent dans les rangs collégiaux américains. Je m'en vais le rejoindre sans plus tarder au bout du fil. Salut Marc.
Comment ça va?
Popé toi-même?
Ben, très bien, merci.
Good. Écoute, j'ai eu l'idée quand j'ai vu la sélection de Charles Davalan et de Antoine Jean la semaine dernière lors du plus récent repêchage du baseball majeur. Puis je me suis dit, ah, Mark Griffin serait bon pour me jaser de tout ça. Parce que, comme je le dis, t'es passé par là, tu le vis avec tes gars. Le chemin entre le moment où t'es repêché ou signé et l'arrivée au baseball majeur peut être long et sinueux, n'est-ce pas, Marc?
C'est plus compliqué, là. C'est sûr que si tu compares au hockey, on n'est pas du tout dans le même cheminement, mais ça reste que il faut se démarquer. C'est clair. Mais écoute, ça commence très tôt parce que, dans le fond, pour être repêché au baseball majeur, il y a peut-être plus que deux étapes, mais il y a deux étapes principales. C'est-à-dire, après ton secondaire, et là, on sait que le secondaire au Canada, au Québec, c'est différent même que du secondaire parfois américain, parce qu'au Québec, évidemment, il n'y a pas un secondaire 6 comme tu as ailleurs au pays. C'est pour ça qu'un gars comme... Il y a des gars comme qui ont été repêchés très tôt, par exemple.
Benjamin Pelletier,
qui avait 16 ans, qui était un des plus jeunes repêchés, mais il avait terminé son secondaire. Alors, il devenait admissible au repêchage. Sinon, si tu t'en vas au collège, si tu t'en vas dans un junior college et non dans une université 4 ans, ben à ce moment-là, tu peux être repêché après ta première et même ta deuxième année au junior college. Par contre, si un joueur décide d'aller dans un 4 ans, ben, il va falloir qu'attendre à sa troisième année, donc ce qu'on appelle l'année junior, pour être admissible au repêchage. Et donc, après ta troisième année ou ta quatrième année, comme Antoine Jean, lui, c'était sa dernière année d'admissibilité au repêchage, donc il a été repêché un peu plus tard en septième ronde par les Rockies. Alors, juste ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que tu as des joueurs qui peuvent faire deux années dans un junior college et transférer dans une université par la suite pour leur troisième et quatrième année. Ça veut dire que des gars comme ça seraient techniquement admissibles à être repêchés pendant trois ans. Mais bon, maintenant, vous savez que dans le baseball, il n'y a juste que 20 rondes. Là, vous allez dire 20 rondes, c'est quand même pas mal. Je veux juste vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, une trentaine d'années, il y avait autant de rondes que les équipes voulaient bien repêcher. Et ben l'exemple...
Écoute, je pense à un chum qu'on a en commun, Éric Boisjoli, qui a été repêché par les Dodgers, ton club à toi. Je pense qu'Éric, c'était un choix de 62e ronde. Tu sais, pour te donner un exemple, là.
Ben, écoute, je vais te donner la même ronde. 62e ronde, c'est la ronde où Mike Piazza a été repêché.
C'est vrai. C'est vrai.
Et Mike Piazza est au temple de la renommée aujourd'hui. Ouais. Alors, ça vous donne une idée. Alors là, évidemment, il y a eu beaucoup de changements dans le baseball. Je vous dirais que la COVID a fait bouger les choses, mais on est passé donc d'un nombre illimité à 40 rondes. Là, on est rendu à 20 rondes. Alors, c'est sûr que juste le fait d'être repêché, je vous dirais que c'est extraordinaire. On a eu des Québécois l'année dernière, on se rappelle d'Émilien Pitre, de Louis-Philippe Langevin, entre autres choses. Là, cette année, on a évidemment Charles et Antoine. Mais c'est un exploit d'être repêché, je vous dirais. Là, c'est extraordinaire. Et là, après 20 rondes, ben tu deviens un joueur, tu peux signer comme joueur autonome. Le problème, c'est que dans l'autonomie, ta marge de négociation n'est pas aussi élevée que si tu es repêché, par exemple, pour obtenir un boni de signature qui est intéressant.
Oui.
Et une fois que tu es repêché, JP, c'est que là, ça dépend. Est-ce que tu es repêché des écoles secondaires ou tu es repêché d'une université? Alors, si tu es repêché d'une école secondaire, il y a à peu près 20-25 ans de ça, tu passais assurément par la Ligue des recrues. Donc, tu étais dans le baseball professionnel, mais il y a une Ligue des recrues. Alors, juste pour vous mettre ça un peu plus clair, c'est qu'au lieu d'avoir une équipe affiliée, une équipe mineure, il y en avait cinq. Et certaines équipes en avaient six. Autrement dit, tu as du 3A, du 2A, du A fort, du A moyen et du A recrue. Alors, imagine-toi le gars du secondaire qui est repêché, lui, à 18 ans. Ben, il passe par le A recrue. Puis après ça, si ça va bien, il monte dans le A moyen. Puis après ça, si ça va bien, il est dans le A fort. Puis si ça va continuer à aller bien, il va dans le 2A. Et après 5 ou 6 ans, donc à l'âge de 23 ans, ben là, il atteint le baseball majeur. Ça, c'était un peu la routine qu'on avait il y a quelques années.
Ce qui a été ton cas, parce que toi, tu n'as pas été repêché, parce qu'à ton époque, les Canadiens ne faisaient pas partie du repêchage du baseball majeur. Mais est-ce que tu as signé tout de suite après le secondaire, toi, Marc?
Non, c'est ça. Moi, je devenais joueur autonome. Donc, moi, j'ai signé à 19 ans comme joueur autonome. Et comme tu l'as bien mentionné, à l'époque, les joueurs canadiens qui restaient au Canada, parce que si j'avais décidé d'aller dans un collège américain, là, j'aurais été admissible seulement à être repêché. Mon bon ami Réal Cormier, qui est malheureusement décédé beaucoup trop jeune, ouais. Réal avait décidé d'aller dans un collège américain dans le Rhode Island. Finalement, il a été repêché en cinquième ronde par les Cards de Saint-Louis. Puis, il a connu évidemment une carrière extraordinaire. Mais en restant au Canada, moi et Denis Boucher, par exemple, on a pu signer comme joueur autonome. Et par contre, une fois que tu as signé, tu te retrouves dans le baseball professionnel. Moi, j'ai eu, je ne sais pas si c'est un privilège ou en tout cas le fait que j'ai eu des bons camps d'entraînement, mais moi, j'ai sauté, je suis tout de suite tombé dans le A fort. Donc, j'ai sauté le A recru et le A moyen. Le problème, c'est que je me suis rendu au niveau 2A, mais j'ai jonglé avec le A fort et le 2A à ce niveau-là durant ma carrière. Mais c'est pour ça que tout est conçu pour 6 ans. Et je m'explique, lorsque tu signes un contrat avec une équipe du baseball majeur, techniquement, ils ont contrôle sur toi pour les 6 prochaines années. Alors, c'est comme si on disait à un joueur, tu as 6 ans pour te prouver, voir si es-tu capable d'en faire une carrière ou non. Et comme une fois que tu atteins le baseball majeur, ben, tu as 6 ans avant d'avoir l'autonomie. Alors, je ne sais pas pourquoi le chiffre 6 est si important dans le baseball, il arrive de où? Mais ça fonctionne ainsi. Alors, pour un gars comme Charles Davalan, qui a été repêché donc après 3 ans d'université, ou Antoine Jean, qui a été repêché, lui, après ses années universitaires, ben, ces gars-là ont des chances de commencer assez haut, donc de sauter des étapes, d'arriver peut-être dans le A fort, tout dépendant de ce que les Dodgers ont comme plan, par exemple, pour Charles Davalan.
C'est surtout que c'est un choix de premier tour, tu sais, fait qu'ils ont comme avantage à y donner une belle chance, là, tu sais.
Exactement. Donc, si Charles va bien, tu sais, je veux pas mettre de pression à Charles Davalan, mais pourrait se retrouver dans le 2A à l'intérieur d'un an, un an et demi dans l'organisation des Dodgers, si tout va bien. Puis une fois que tu as atteint le 2A, ben les meilleurs espoirs se retrouvent dans le 2A. Là, vous dites, ouais, mais il y a du 3A. Le 3A, c'est vraiment, là, si on fait le lien avec le hockey, c'est comme vraiment une ligue américaine. Donc, des joueurs un petit peu plus âgés, mais que tu as besoin de temps en temps. Tu as une blessure, tu as besoin d'un gars pendant 2 semaines, tu sais qu'il va te donner un rendement honnête, tu vas le chercher dans le 3A. Mais la crème d'une organisation, souvent va se retrouver au niveau 2A. Et là, ben, on va leur donner une petite tasse de café au niveau 3A, mais on sait qu'on va les rappeler. Moi, j'ai eu l'immense privilège de jouer pour l'équipe de Harrisburg en 1993. C'était
le club école des Expos, sauf erreur.
Exact. Et c'est une année où on a remporté 100 matchs, 100 victoires.
Oh, wow!
Moi, j'ai... Mais d'ailleurs, c'est encore une des, selon plusieurs, une des meilleures équipes de ligue mineure. Mais dans cette équipe-là, ben, il y avait Cliff Floyd, puis il y avait, tu sais, des Rondell White, puis il y avait des... Tout l'avenir, si tu veux, des Expos se retrouvaient au niveau 2A. Lorsque ces gars-là sont montés en 93 à Ottawa, qui était la filiale 3A des Expos, c'est là que moi, je suis venu remplacer un peu ces gars-là, mais on a continué à gagner. Mais là, tu voyais que l'avenir des Expos se jouait au niveau 2A. Donc, tous les joueurs, les Curtis Pride, là, si on peut, on fait du name-dropping un peu. Là,
Mark Grudzielanek aussi est passé par là.
Grudzielanek, Mike Lansing, je veux dire, on pourrait tous les nommer.
Derek Aucoin.
Exact. Alors, tous ces gars-là ont passé au niveau 2A. Puis là, c'est là que tu te positionnes vraiment comme joueur d'avenir dans l'organisation, à savoir... Tu sais, c'est quoi les plans dans les prochaines années? Mais... Alors que si un joueur avait été repêché, comme j'ai mentionné, au niveau secondaire, ben là, les étapes sont un peu plus longues. Et c'est pour ça que dans le repêchage aujourd'hui, vous voyez quelques joueurs de secondaire être repêchés en première ronde parce que c'est des talents exceptionnels. Mais plus le repêchage avance, moins il y a de joueurs qui proviennent des écoles secondaires qui sont repêchés. On est mieux dans le baseball aujourd'hui d'avoir des gars qui arrivent d'un programme de 3 ou 4 ans universitaires. Les gars sont prêts à jouer, sont à quelques années près. Et c'est pas rare qu'on voit aujourd'hui, JP, tu le sais, un gars qui est... D'ailleurs, on a l'exemple cette année, mais des gars qui sont repêchés en 2024, qui sont dans le baseball majeur en 2025.
Ouais.
Mais, chose que tu ne voyais pas beaucoup il y a à peine 15 ou 20 ans.
Tu sais, on se rend compte que le baseball, un petit peu comme le hockey, est un sport à développement tardif. Puis tu sais, tu parlais d'Antoine Jean tantôt. Tu sais, lui avait été repêché à 17 ans à sa sortie de l'école secondaire. Il ne se sentait pas prêt. Il a donc décidé d'aller... je sais qu'il a changé d'école, là, mais tu sais, il a fini à l'université de Houston après 4 ans. Il se remet éligible au repêchage. Je pense qu'il y a quoi? Il y a 23 cette année, si je ne me trompe pas. 22 ou 23.
Ouais. Il va avoir même 24 ans.
Bon, ben 24. Fait que là, tu dis qu'il reste à partir de maintenant un autre 6 ans pour se développer. T'sais? Fait que il est beaucoup plus mature que s'il avait commencé son 6 ans à l'âge de 17 ans, là, tu sais.
L'erreur qu'on fait, tu m'ouvres une petite porte, mais l'erreur qu'on fait, puis je dirais au Québec, mais au Canada, puis c'est que je trouve que parfois, on évalue des joueurs en disant à 16-17 ans, vous êtes bon, puis il y a des gars de 16-17 ans qui font pas, par exemple, l'équipe élite, puis on les ignore, alors que ces gars-là peuvent facilement, très bien se développer, comme tu l'as mentionné, à 18, 19 et 20 ans et devenir des joueurs dominant. D'ailleurs, on dit que tu atteins vraiment là, tes meilleures années de baseball, là, c'est entre 26 et 30 ans.
Ah oui,
alors que là, ben, tu le sais, hein, le Yogi nous l'avait dit, le baseball est 90 % mental, l'autre moitié physique. Là.
Ouais.
Mais c'est que tu sais, la game dans ta tête, la maturité, la connaissance du jeu, la connaissance des tirs pour un frappeur ou un lanceur, peu importe. Tu atteins ça autour de 26-27 ans. C'est pour ça que des gars comme Vlad Guerrero puis Juan Soto signent des contrats de 500 millions parce qu'on sait que c'est normalement, ce sont les meilleures années de leur carrière là, qui sont là. On les vit en ce moment, là, au cours des 3, 4, 5 prochaines années.
Ouais.
Alors qu'un joueur autonome qui arrive à 30, 31, puis tu veux le signer pour 5-6 ans et il va se rendre à 37, tu le sais que tu n'auras pas les meilleures années de sa carrière.
Tu me parles de Vlad Guerrero. Rappelle-toi là, la chicane de début d'année, là, les négociations de contrat sur la place publique. On a-tu bien fait de régler ce dossier-là? Regarde comment vont les Jays par les temps qui courent.
Écoute, tu as tellement raison d'amener ça parce que là, les gens vont dire « Ouais, mais Vlad, il frappe bien, mais c'est, la puissance n'est pas là. » C'est pas grave. Moi, je vous dirais que Vlad, tu regardes, là, il est deuxième dans le baseball majeur pour les balles frappées d'aplomb. Là. Tu sais, les à cette heure, on mesure là, tout ça. Là. Il est deuxième dans le baseball majeur. Donc, il frappe la balle d'aplomb. C'est juste qu'il soulève moins la balle. Puis, pour l'instant, moi, je ne toucherai pas à ça. La balle va finir par être soulevée.
À ton moment de vue.
Exact. Mais de stabiliser ce dossier-là a vraiment amené chez les Blue Jays un sentiment, une espèce d'esprit d'équipe, une synergie d'équipe. Puis vous savez, le baseball est un sport d'équipe très individuel. Hein? T'es tout seul au bâton. Il n'y a personne qui peut t'aider. Là. Mais c'est un à la fois. Puis en stabilisant ce dossier-là, on dirait qu'on n'avait plus rien qui nous dérangeait. C'est un bon groupe de jeunes. On va se dire, là, du côté des Jays, les gars ont l'air d'avoir du fun à jouer ensemble. Puis ça, là, c'est... Tu ne peux pas le calculer avec des statistiques avancées ou des statistiques ou même un département là, de gars avec des cravates, comme j'aime appeler. Là. C'est vraiment solide. Puis on néglige souvent la synergie d'une équipe, mais en ce moment, tu as l'impression qu'ils ne peuvent pas perdre. Les autres, ils croient à ça présentement. Puis qu'il y a un groupe et de même, tu peux évaluer le talent comme tu veux, ça va t'amener assez loin.
Puis moi, je pense que tu viens de régler, là, tu sais c'est qui le leader à Toronto? En ayant réglé ce dossier-là, puis tu sais, j'aime beaucoup Beau Bichette, là, mais c'est pas un gars très vocal. Pour moi, le leader dans ce vestiaire-là, c'est Vladimir Guerrero fils. Puis je pense que d'avoir réglé ce dossier-là a asséné l'air dans le vestiaire. Puis là, tu regardes, là, les Bargers sont en feu, les Kirk sont en feu. Tu sais, tout le monde est en forme, mais t'as réglé le problème en solidifiant ton leader. Ouais. Es-tu d'accord avec moi?
Oui, absolument. Puis ce que tu dis, c'est tellement vrai parce que là, les gars autour de Vlad ont dit « Vlad, on sait que c'est toi le leader, là. On embarque avec toi dans cette affaire-là. »
Exact.
Tu comprends? Fait que là, Vlad, ça sent pas tout seul. Il faut pas qu'il traîne l'équipe à lui seul. Puis écoute, je sais pas si tu as vu ta réaction quand Barger a frappé son circuit il y a deux jours là, contre les Giants. Mais tu sais, Vlad était là, mais tu sais, c'est quoi cette affaire-là? C'est extraordinaire. Fait que quand tu es un leader, c'est pas juste les statistiques que tu mets au tableau. C'est comment tu réagis dans le vestiaire, comment t'es avec les gars. Fait que c'est beaucoup plus que ce que l'on voit, par exemple, en termes de statistiques ou même à la télévision. Ça va plus loin que ça. Puis Vlad le fait très, très bien.
Tout à fait. Dernière question pour toi, Marc, puis ta réponse va servir à mousser les appels lorsqu'on libérera les circuits sur la ligne ouverte. Puis écoute, tu fais du baseball à la télé depuis quoi, une quinzaine d'années à peu près, Marc? Sans compter la radio aux expos?
Ben écoute, là je vais me vieillir, mais c'est ma 31e saison.
Tabarnouche, écoute, je m'attendais pas à cette réponse-là. Je t'écoutais à la radio à l'époque avec Jacques, mais il me semble que le temps est sacrifice là.
J'ai commencé ma carrière en 1995 à Télévision 4 saisons avec Michel Villeneuve au Baseball des Expos.
Wow, ok, écoute, le temps file. Là. À mes yeux, Marc, t'es toujours un jeune coq du printemps, là, c'est pas ça.
Ouais, mais c'est ça pareil.
Ouais, mais écoute, t'as vu le baseball évoluer au fil des années, puis t'as connu des moins belles années au baseball majeur. Là. On se rappellera de l'époque des stéroïdes, là, même si c'était spectaculaire. Et surtout d'une époque où est-ce qu'on disait que le produit du baseball majeur était plus le fun, n'était plus intéressant, que la clientèle était une clientèle de vieux, une clientèle plus âgée, un sport qui n'intéressait pas les jeunes. Je regarde, là, puis je m'en rends de plus en plus compte depuis que je décris les matchs à TVA Sport, là, des stars, là. Écoute, il y en a partout au baseball majeur, là, des Tatis, des De La Cruz, des Guerrero, des Judge, des Otani, des Mookie Betts, des Paul Skeens. Écoute, je me trompe-tu ou c'est une des périodes les plus fastes pour le baseball majeur?
Ah, écoute, le baseball n'a jamais été aussi spectaculaire, puis et c'est tellement vrai. Puis tu sais, tu pourrais même nommer un Darren Clark au champ centre, des A's qui fait des catchs spectaculaires. T'es pas obligé d'être un joueur vedette à frapper des coups sûrs.
On n'a jamais eu Raleigh, de... un receveur qui frappe des circuits. On n'a pas vu ça depuis Mathusalem, là, tu sais.
Exact. Et c'est ça la beauté. C'est que là, le baseball, peut-être tantôt on parlait que tu peux passer un an ou deux dans les mineurs puis passer directement au baseball majeur. Ça a fait que beaucoup d'athlètes à l'époque étaient aussi bons au basketball, au football puis au baseball. Puis ces athlètes-là choisissaient d'aller dans la NFL directement ou dans la NBA directement. Ils ne voulaient pas se taper leurs 3, 4, 5 ans d'autobus de ligue mineure. Alors qu'aujourd'hui, si tu es un bon athlète, tu peux rapidement sauter dans le baseball majeur. Et là, ben, on voit la différence. Les bons athlètes choisissent le baseball. Puis là, on se retrouve avec, tu sais, évidemment, avec l'expansion avec l'Asie puis toutes les académies en République qui sont de mieux en mieux. Écoute, ça fait un produit qui est extraordinaire. Tu sais, avant, tu cachais ton moins bon joueur au champ gauche ou au premier but, alors qu'aujourd'hui, je veux dire, avec les statistiques avancées, on voit à quel point les gars sont extraordinaires. Fait que le baseball est excitant et j'ajoute rapidement à ça, c'est que le baseball majeur a fait un sondage récemment et agréablement surpris que l'âge, je parle pas des téléspectateurs, je parle de l'âge des gens qui vont dans les stades de baseball, là, on est autour de 30 ans, un peu en bas de 30 ans. Ça, c'est l'âge moyen des gens qui s'en vont voir du baseball dans les stades. Alors, imaginez, c'est extraordinaire.
Je suis pas surpris. Je regarde juste mon fil d'actualité. Là, puis là, je comprends que c'est les vacances, la construction. Là, mais j'avais l'impression que j'avais à peu près 300 chums qui étaient au Rogers Center le week-end dernier. Tu sais, il y a du monde qui vont voir de la balle. Là, puis des jeunes. Puis là, t'amènes ton petit gars. Puis t'amènes ta petite fille. Puis tu y vas avec ta blonde. C'est rendu une belle activité familiale, je trouve.
Ben, écoute, c'est spectaculaire. T'sais, tu vas à Boston, tu vas à Toronto, tu vas à New York. T'sais, moi, j'ai toujours dit, là, puis on reviendra pas sur le dossier des expos, mais t'sais, les gens qui ont juste vu des matchs au Stade Olympique, je trouve ça quasiment malheureux de ne pas aller vivre c'est quoi une ambiance dans un stade comme bon à Boston, à Chicago ou à Toronto même. Donc, c'est vraiment intéressant. Et là, ben, ce que le baseball souhaite, c'est que ces gens-là qui vont regarder des matchs parfois à la télévision, ben, on va rajeunir l'auditoire de télévision. Mais pour l'instant, on est très, très heureux des derniers chiffres, à ce niveau-là, au niveau des stades. Puis c'est très rafraîchissant pour le sport.
Par curiosité, parmi tous les athlètes là, qu'on vient de nommer, là, lequel tu suis avec le plus d'intérêt ou de fascination?
Ben, écoute, là, tu me poses vraiment une question qui n'est pas facile parce que, je veux dire, je pourrais te nommer un, au moins un joueur par équipe. T'sais, à chaque fois qu'on fait, tu le sais, quand tu fais des matchs à la télévision, t'sais, que ça soit un De La Cruz ou que ça soit un Pete Crow Armstrong ou que ça soit un Shohei Ohtani que tu as nommé tantôt, il y en a toujours un ou deux que tu te dis, OK, moi, lui, il faut que je le regarde. T'sais, un Cal Riley, il va au bâton maintenant, tu veux le regarder. Puis tu veux voir je parlais de Darren Clarke tantôt, j'avais même ouvert la possibilité à un moment donné, pourquoi qu'on n'aurait pas, au lieu d'avoir un frappeur de choix pour un lanceur, pourquoi qu'on n'aurait pas aussi un frappeur de choix parfois pour un joueur en défense, tu sais, d'avoir le meilleur gant. Il y en a des joueurs qui sont bons avec leur gant, mais qui sont pas capables de te maintenir en attaque.
Ouais.
Mais tu sais, tu veux aller voir un gars comme Clark qui attrape des balles au champ centre, ou un gars comme Byron Buxton, là, qui est enfin en santé, qui fait des catchs spectaculaires au champ centre. Des joueurs d'arrêt court. Tu sais, tu frappes une balle au sol aujourd'hui dans le baseball, t'es mieux de la frapper d'aplomb parce que ton premier but est aussi agile que ton deuxième but. Puis ton troisième but est aussi bon que ton joueur d'arrêt court. C'est plus facile de frapper un roulant dans le baseball majeur qui perce l'avant-champ. Donc, c'est beau de voir ça. Je pense que c'est un sport qui a bien évolué. Puis on espère que ça va se poursuivre, évidemment.
Ben, tout à fait. Tu décris quelques matchs cette semaine à RDS, je pense, dont les Red Sox demain, si je ne m'abuse.
Exact. Les Red Sox demain, nous autres, c'est souvent les lundis, mercredis et dimanches. Mais c'est toujours le fun de voir les Red Sox. T'sais, moi, j'aime bien un Jared Duran. Personnellement, c'est le genre de joueur que t'sais, très combatif, très agressif, toujours des présences au bâton où le gars s'élance.
Là, il est appelé, il est échangé, par contre, là.
Écoute, les rumeurs sont là. La date limite des transactions s'en vient. Je suis pas certain, par exemple, moi, qu'il va être échangé. Je suis pas convaincu, mais toujours est-il que c'est le fun aussi lorsqu'on fait des matchs des Red Sox, ben, c'est de voir notre bon ami Abraham Toro qui connaît une
Ouais.
autre saison remarquable. Je trouve ça fantastique de voir Abraham qui a enlevé un petit peu l'étiquette de joueur d'utilité, là, qui joue pratiquement tous les jours. Ça, je trouve ça vraiment le fun qu'il ait enfin sa chance de montrer ce qu'il est capable de faire.
Hey, Marc, sur la messagerie texte, il y a des gens qui nous disent c'est le fun d'entendre un gars d'RDS avec un gars de TVA Sport parler de baseball. Tu vois, à BPM, on est comme les Nations Unies, là, nous autres. Il y a de la bonne entente pour tout le monde.
Ben, écoute, des fois, la guéguerre, c'est un peu en haut, hein, parce
Ben
qu'on va
oui.
dire, on est tous des chums là-dedans,
Ben
puis
oui.
on aime tout le sport, puis on veut tout que ça fonctionne. Alors, il n'y a pas de problème avec ça.
Ah non, Marc puis moi, on est des amis, même à l'extérieur du terrain, même que Marc, il m'a aidé avec mon swing, là.
Même mon fils t'a déjà aidé
Ah oui,
avec ton
ton fils
swing.
aussi, ouais. Oh oui, ton fils.
Mais
Comment ils vont, tes gars, d'ailleurs, dans le junior élite?
ça va bien, ça va très bien. Écoute, là, enfin, on commence à avoir un été qui a de l'allure. Il y a eu beaucoup de pluie, là, mais écoute, la saison se poursuit. On sait que les séries vont s'amorcer à la mi-août dans Junior Elite. Fait que c'est toujours le fun de. Écoute, c'est vraiment le fun d'avoir deux gars dans la même équipe parce que là, mon déplacement vaut vraiment la peine.
Ah ben oui. Ah non, absolument. Ben écoute, d'ailleurs, là, moi, je pense que je vais parler un petit peu des Ducs de Longueuil cette semaine là, avec Dominique Simard, votre GM. Là, fait qu'on va faire un petit bout là-dessus aussi.
Ben écoute, c'est tellement une belle organisation. Il y a des belles organisations dans Junior Elite. C'est une ligue qui on aimerait qu'elle soit davantage connue, mais parce que c'est du très, très bon baseball qui se joue. C'est sûr que les installations sportives ne sont pas toujours parfaites au Québec. On se bat beaucoup pour ça. Même si le baseball a évolué, qu'il y a 40 000 jeunes cette année qui vont jouer au baseball, on va presque atteindre les chiffres des années 80 avec le baseball féminin qui est en pleine évolution. Mais ça reste qu'on est un petit peu en retard dans les infrastructures. Alors, on aimerait
Ouais.
ça, là, gagner un petit peu de terrain là-dessus dans les prochaines
Hey Marc, toi puis moi, là, quand on se met à parler de baseball, là, on pourrait parler pendant 2 heures, mais
années.
je vais te laisser filer, moi te laisser aller luncher, puis on se reparle bientôt sur le bord d'un terrain de baseball.
Avec grand plaisir. Merci
Salut
beaucoup.
mon ami Marc Griffin, bye bye.
Salut. Bye-bye.
Oui, Marc parle des infrastructures. Là. Quand les expos sont partis, là, on a pris pas mal de terrains de baseball au Québec pour en faire des terrains de soccer. Puis c'est correct parce que la demande était là. Ça, le problème, c'est que là, la demande est au terrain de baseball, puis on n'a plus de place pour notre beau sport. Mais ça, c'est un autre dossier. Là. Je sais qu'on est en train d'en rénover un paquet là, avec des beaux terrains synthétiques, là, mais n'empêche que ça nous prend de la place.